On continue l'étude dans la pensée qu'on veut devenir des hommes et des femmes de Dieu. On veut maturer. Puis maturer, c'est venir à maturité. Être à maturité, c'est comme un blé d'Inde qui a poussé des épis, puis que les épis sont prêts à manger. Les fruits sont là. Ça, c'est à maturité. C'est pas quand il vient au monde. Quand il vient au monde, il y a un seul dos. Il peut se penser blé d'Inde, mais il n'y a pas encore les blé d'Inde dedans. Il n'y a pas encore ce qu'on attend de lui, c'est les épis. Dieu veut qu'on soit des arbres fruitiers avec des fruits.
Amen.
Amen. Puis, faut devenir à maturité. Puis, quand est-ce qu'on va devenir à maturité puis qu'on va porter du fruit? C'est quand qu'on va ressembler à Jésus. Parce que c'est le but. Oui, on n'est pas parfait, mais on vise. Puis quand qu'on vise, mais on emporte du fruit, parce que c'est le Saint-Esprit qu'il fallait. Mais on est en train de développer quand même des idées pour comprendre ça va jusqu'à où, là, la maturité spirituelle. On va voir un point aujourd'hui, une des branches dans la maturité où ce que nous devons atteindre, c'est de devenir mature dans l'idée de demeurer en amour avec la parole de Dieu. On va voir que la parole de Dieu a un rôle indispensable dans la vie du croyant. Un chrétien qui dit qu'il veut être comme Jésus peut pas faire autrement que d'être rempli de la parole de Dieu.
Amen.
Jésus était la parole. Si on veut devenir comme Jésus, faut qu'on soit en amour avec la parole sans se relâcher. Parce que si un jour dans notre vie, on du moins la Bible, là, si je mets ça, c'est un petit livre, on fait une petite boîte, puis on met pas Dieu dans une petite boîte, puis on jette le livre parce que on pense qu'on l'a l'affaire sans le livre. On vient de tomber à côté de la traque complètement. Puis c'est une pensée qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'églises ont tassé la Bible ou ils ont arraché des pages de la Bible parce qu'ils disent ces sujets-là, on peut prêcher ça aujourd'hui. Bon, ils sont tellement conformés au monde qu'il y aurait juste le couvert. Tout le reste est arraché. C'est ça, là. Mais la vie chrétienne, c'est d'être des disciples, puis des disciples, ça garde la parole de Jésus. On va voir plein de points là-dedans. Puis tu démontres pas que tu es rendu mature parce que tu mets la Bible de côté. C'est le contraire. Tu montres que tu es mature parce que la Bible fait partie de toi. La Bible est en toi, puis tu vis la Bible. Amen. Être à la stature de Jésus, parvenir à la maturité en grandissant par la parole de Dieu. On va voir cette idée-là. Tu peux pas penser que tu es en train de grandir dans le Seigneur, puis de maturer si tu as tassé la Bible de ta vie. On va voir que pour être grand dans le Seigneur, aux yeux du Seigneur, c'est quelqu'un qui est enraciné dans sa parole, qui est en amour avec la parole, puis qui sa vie, c'est d'annoncer la parole. Il y a beaucoup de gens intéressés par la Bible. C'est le best-seller mondial. C'est le livre qui a été le plus vendu à travers le monde, dans toutes les langues. Oui, il y a plein de monde qui sont intéressés par ce livre-là, parce que pour le monde qui ne connaissent pas Dieu, c'est quand même un livre mystérieux, un livre dans lequel on peut trouver peut-être des prophéties, l'Apocalypse, puis toutes sortes de sujets, Jésus. Là, eux autres, tout le monde, ils ne savent pas c'est qui Jésus, mais ils savent que ça parle de Jésus dans la Bible, puis des belles histoires à raconter aux enfants. Ça intéresse le monde. Il y a beaucoup de gens intéressés par la Bible parce que c'est le best-seller, mais même si les hommes ont essayé de le détruire, parce que dans l'histoire de la vie, les religions, puis il y a eu des guerres, puis ils ont essayé d'effacer la Bible sur la planète. Mais Dieu, c'est le Tout-Puissant, puis il a permis qu'on ait la Bible dans nos mains 2000 ans plus tard de l'histoire de Jésus. Mais en fin de compte, là-dedans, il y a des écrits qui datent de presque 6000 ans. Depuis l'histoire d'Adam et Ève, là, c'est fort. Puis t'as même des dialogues avec Dieu, puis tout, là, qui sont là, des prophéties même. Puis il y a eu une destruction de la planète complète au déluge, puis les paroles nous sont quand même parvenues. C'est vraiment miraculeux. Ça prenait la puissance de Dieu, fait cela. Ce livre-là, c'est pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens de toutes sortes de religions dans le monde qui lit, qui ont lu la Bible au moins une fois, même s'ils font pas partie de la croyance juive ou chrétienne. Ben, je le sais qu'il y en a qui l'ont lu le Nouveau Testament, même s'ils ne croient pas en Jésus. J'en ai rencontré des gens qui n'ont pas accepté encore Jésus dans leur vie. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant Dieu, mais ils ont quand même lu la Bible. Puis ils sont fiers de dire, ils n'ont rien contre ce livre-là. C'est un livre qui intéresse les gens. Ils l'ont pas compris, mais il y a un intérêt. Mais malheureusement, le point que je veux en venir, qui fait partie un peu de mon idée du message, du pourquoi du message aujourd'hui, il y a de plus en plus de chrétiens qui pensent qu'elle est démodée, sans importance, puis ils ne la lisent plus. Présentement. Même si c'est le livre le plus vendu sur la planète, même si c'est un livre que Dieu a préservé pendant 6 000 ans presque, puis que c'est la puissance de Dieu qui nous prouve qu'il est là, à cause que le livre est là. Sinon, on n'aura rien de cela. Puis aujourd'hui, on est rendu dans une période, même si on sait lire, le livre nous intéresse presque plus, puis on est supposé être des gens qui sont en amour avec Jésus puis sa parole. Pourtant, Jésus a dit combien de fois, là, dans différents passages, puis dans la Bible, pas juste Jésus, mais il a dit comment est-ce que la parole de Dieu va durer de temps. Elle va durer éternellement. La parole de Dieu a été écrite, là, pour exister sans arrêt. Jésus dit dans Matthieu 5:18, il dit, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ça veut dire, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il disparaîtra pas de la loi un seul iota, ni un seul trait de lettre, jusqu'à tout soit accompli. Ça veut dire, tant que tu vois que la planète est là, ça veut dire que tu es encore les deux pieds dessus, ça veut dire que la Bible est encore en vigueur. La parole de Dieu est encore d'actualité. Puis il y a des choses encore qui doivent s'accomplir. Tout ce qui est écrit, mais dit, tant que le ciel et la terre vont être là, il y a encore des choses qui doivent s'accomplir, puis le livre va encore rester. Amen. Même que le ciel et la terre disparaissent, le livre va encore rester. C'est encore plus fort que ça, parce que dans l'apôtre Pierre, lui, il a rajouté dans 1 Pierre 1:25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » La Bible, là, est pas démodée. Nous, on va être démodés, on sera plus ici, puis la parole de Dieu va entendre encore sur la planète, puis va encore du monde sur la planète, puis l'histoire va se continuer comme c'est écrit dans le livre. Lui, il est pas démodé. Puis cette idée-là qui est plus à date, puis que tout est accompli, c'est une fausse pensée. Puis Jésus, là, quand il est mort sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Il n'a pas dit que toute la Bible est accomplie. Ça en voulait dire toutes les prophéties à propos de lui sont accomplies. Il y a une différence parce qu'il y a encore des choses que dans l'Ancien ont été prophétisées qui ne sont pas encore accomplies. Puis que Jésus n'a annoncé lui tout, puis les apôtres aussi, des choses après même que Jésus soit venu. Les apôtres ont parlé puis ont annoncé des choses à venir qui ne sont pas encore accomplies. Il y en a d'autres qui pensent qu'à l'an 70, avec la destruction de Jérusalem, que tout s'est accompli. Mais c'est encore pas vrai, parce que Jésus n'est pas revenu. La Bible parle d'un retour visible de Jésus. Il y en a des chrétiens qui pensent que Jésus ne reviendra pas visiblement. Puis il y en a d'autres qui disent, il est revenu, mais invisible. Donc, tu le vois-tu? Ils pensent que c'est ça, puis c'est pas des farces, là. Aujourd'hui, c'est cela. Il y a plein de monde qui parle de ce sujet-là présentement. Mais les gens font fausse route. Jésus n'est pas revenu, puis la Bible a dit, lorsqu'il va revenir, tout œil le verra. Il va revenir comme de sa gloire qui va éclairer le ciel avec tous les êtres ressuscités. Ceux qui sont morts en Jésus vont venir avec lui. Ses anges puissants vont être lui. Puis nous, les vivants qui ont la foi en lui et en sa parole, on va se retrouver avec lui pour revenir avec le Seigneur sur des nuées. Puis ça, on va savoir, c'est pas encore accompli. Puis il y a d'autres choses, des jugements sur la bête, et puis tout le kit, puis le règne de 1000 ans. Puis après ça, il va y avoir la destruction de la planète, mais il va y avoir un nouveau ciel, il y a une nouvelle terre après ça, qui sera pas le même kit, mais c'est prophétisé dans ce Bible-là. Donc, il y a encore des choses à arriver à la tonne. Ce livre-là est toujours d'actualité. Il n'est pas passé date. Mais à quoi sert la Bible? Nous, on le sait que ce livre-là, il est éternel. On sait même que ces paroles-là vont juger le monde à la fin. Après. C'est ça que Jésus dit, mes paroles, c'est ça qui va juger le monde à la fin. Fait que ils sont là pour rester. On pourra pas changer ça. Puis même si les gens veulent à tout prix changer ça, parce qu'il y a comme un gros problème de mal compréhension. Il y en a qu'on va dire que c'est de la mal compréhension, puis il y en a d'autres, c'est mauvaise volonté de pas vouloir se soumettre, d'obéir. Parce que le livre est là. Puis là, en voulant pas se soumettre, vont dire, mais ça, c'est dans ce temps-là, ça, c'est plus bon. On enlève les pages, puis on garde juste, on est rendu qu'il nous reste quasiment juste le couvert. À quoi sert la Bible? Bien, elle a plusieurs buts. Dieu, quand il a permis qu'on ait ce livre-là, là, il y avait des buts. Il veut servir de ça pour nous rendre à maturité, pour nous rendre comme Jésus. Imaginez, là, si Jésus serait venu il y a 2000 ans, puis on n'aurait pas eu le livre aujourd'hui. Comment est-ce qu'on aurait fait pour connaître le chemin?
Impossible.
Déjà, là, il y a une Bible, puis il y a déjà plein de monde qui prêche toutes sortes de chemins différents. Fait qu'imagine-toi s'il n'y aurait pas de Bible. Personne n'aura une possibilité de savoir qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu aime pas. Mais dans ce livre-là, c'est là pour nous expliquer ce que Dieu avait à nous dire. La première raison pourquoi que c'est là, Dieu avait des choses à dire à ses créatures, puis il voulait pas les dire rien qu'à ceux dans ce temps-là. Il voulait que tout le monde le sache, même jusqu'à la fin de l'histoire de la vie. Il voulait que tout le monde connaisse son témoignage puis sa loi. Dieu, il s'est révélé, il a expliqué des choses. Il avait un message à dire, puis c'est important d'être au courant. Il n'est pas démodé, ce livre-là, puis il va demeurer éternellement. Tout ce qu'il y a là-dedans est encore important pour les gens d'aujourd'hui. Première idée, Dieu, par la Bible a perpétué le témoignage de Dieu, sa loi, puis sa volonté, que l'on doit transmettre aux autres. C'est le témoignage. C'est quoi le témoignage? J'en ai parlé un peu l'autre jour. Toutes les choses que Dieu a faites pour prouver qui qu'il était par ses miracles. Quand Moïse est allé voir le Pharaon, il dit ça, là, c'est afin que toutes les nations sur la terre puissent craindre mon nom. Il dit, je l'ai manifesté, ce gars-là, là, dans le but de manifester ma gloire. Il a permis que ce gars-là, il s'est endurci, puis le gars, en continuant de s'endurcir, Dieu a démontré sa puissance. Il a combattu tous les faux dieux de l'Égypte avec ses 10 commandements. Puis, il a manifesté sa puissance pour démontrer à tous que lui, Dieu, il est Dieu. Bon, ça, on appelle ça son témoignage. Il a rendu témoignage de lui. Fait que tous les miracles qu'on voit là, depuis Adam et Ève, là, tous les prophètes, Moïse, puis Jésus, tous les miracles que les apôtres ont faits, c'est le témoignage de Dieu pour démontrer qui il est, puis qu'est-ce qu'il peut faire comme intervention dans ce monde. Il l'a montré. Puis ça nous sert d'exemple à nous pour nous encourager à avoir la foi. Tu sais, si on voit que Dieu il a permis que Pierre a marché sur l'eau, ça peut donner l'espérance à quelqu'un de vouloir marcher sur l'eau. Mais c'est une idée que je dis, mais tous les miracles, s'il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a ressuscité des personnes, puis qu'on dit que Jésus est toujours le même, ça te donne la foi pour t'accrocher à lui, pour espérer voir ces choses-là dans ta vie. Bon, mais Dieu a permis qu'on ait la Bible pour son témoignage, puis aussi sa loi. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit qu'est-ce qu'il a donné comme loi, puis dans le Nouveau Testament, on voit aussi la loi de Christ, l'enseignement de l'Évangile. Si ce livre-là est là, il y a encore des raisons. Il veut nous partager sa manière de penser. Dans le psaume 78, le verset 5, ça dit, « Il a établi, en parlant Dieu, un témoignage en Jacob. » Un témoignage, c'est ce que je vous disais, en manifestant sa puissance, en faisant des miracles, Dieu a démontré qu'il existait, il a démontré qu'il était là, il les a prouvés avec toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Son témoignage est fait, puis il en fait encore des signes pour démontrer qu'il est encore là. Puis il dit, il a mis une loi en Israël, puis il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Tout ça, là, ça veut dire, ce qu'on apprend de Dieu, ses miracles, sa puissance, puis ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas, mais on apprend des choses sur Dieu, puis c'est à cause qu'on a le livre des mains qu'on apprend cela. Puis là, on peut le transmettre à d'autres. C'est ce qu'on fait. Toutes les églises sur la planète parlent de Dieu, puis parlent de sa parole. Toutes les églises sur la terre parlent de Dieu, puis sa parole, puis transmettent ce que Dieu pense, ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas. C'est à ça que ça sert la Bible. Jésus a dit, enseignez-leur. C'est ça qui est le but. C'est comme un rabbi qui enseigne ses élèves qui sont des disciples. Parce que le mot rabbi veut dire le professeur, le maître, un professeur, ou les autres qui écoutent, c'est des disciples. Le mot disciple veut dire élève. Fait que c'est comme si on est des professeurs avec des élèves, puis toute notre vie, on écoute la parole de Dieu, puis on se fait expliquer, puis c'est ça, on transmet ce qui est écrit dans la Bible. Puis c'est important, Dieu nous demande de retransmettre pour qu'il y en ait d'autres qui connaissent son témoignage puis sa loi. Un autre point qu'on voit dans la parole de Dieu, à quoi qu'elle sert, elle sert à garder par écrit toutes ses alliances, ses promesses, ses conditions pour obtenir les promesses. C'est tout écrit dans la parole de Dieu. Il y a tellement de belles promesses que Dieu a données à ses disciples, mais aussi aux gens du passé. Puis ils ont vécu des choses incroyables avec ces promesses-là. Quand le peuple d'Israël a eu la promesse qui était pour avoir la terre promise, mais ils ont cru, puis ils ont été, il y en a qui n'ont pas rentré, mais il y en a qui ont rentré, puis ils ont rentré dans la terre promise, puis ils ont gagné leur territoire, puis ils ont pu vivre là des centaines d'années, etc., des milliers d'années, mais ils n'ont perdu un bout, mais l'idée, c'est Dieu accomplit ce qu'il a écrit, ce qu'il a promis. On voit dans 1 Chronique, le chapitre 16, les versets 15 à 17, ça nous dit, rappelez-vous à toujours son alliance. Comment je peux me rappeler son alliance si je la connais pas? Comment je peux la connaître, son alliance, si je la vois pas à quelque part? Comme je vous disais tantôt, si on n'aura pas la Bible dans les mains aujourd'hui, on pourra pas connaître son alliance. C'est une des raisons pourquoi ce livre-là n'est pas passé date. On apprend à connaître son alliance qu'il a fait à travers Jésus. Il en avait fait une avant, mais il en a fait une avec Jésus. Puis c'est important que je l'aie dans les mains, cette alliance-là, puis que je puisse la connaître, puis que je puisse me conformer à ce qui est écrit dans cette alliance-là, parce qu'il y a des conditions pour entrer dans l'alliance. Il dit dans 1 Chronique 16, le verset 15 à 17, « Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses, pour 1000 générations. » Si je veux que 1000 générations après moi entendent la promesse, ses promesses et ses alliances, c'est important que ça soit écrit dans un livre. C'est pour ça que Dieu a permis que la Bible nous ait été écrite, puis qu'on l'a encore dans les mains. On voit ses promesses, on voit ses alliances, on voit son témoignage, on voit sa loi, puis on voit les conditions pour hériter ses promesses. Il dit l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Ça veut dire que Dieu, quand il promettait de quoi, c'était pas juste pour ce temps-là, il promettait les choses pour l'éternité. C'est important qu'on les sache, si c'est des alliances éternelles que Dieu fait à travers, avec les humains. Puis nous, on est des héritiers présentement, des héritiers selon une alliance. Puis pour que je sache la portée de cette alliance-là avec Jésus, parce que c'est par le sang de Jésus, la nouvelle alliance, en son sang. Là, je suis héritier de la nouvelle alliance, mais une alliance qui m'apporte quoi, qui me donne quoi, c'est quoi les conditions que faut que je vive. Mais tout ça, c'est expliqué dans son livre. C'est pour ça qu'il est important que je l'ai. Il n'est pas passé date, il est en cours d'actualité. La parole de Dieu, elle a encore d'autres effets. La Bible, elle a encore d'autres effets. Elle nous permet, vu qu'on suit cette logique-là, elle nous permet d'être sauvés. Si j'aurais pas eu la Bible dans les mains, j'aurais pas pu savoir comment faire pour être sauvé. Parce que je l'ai su comment faire pour être sauvé quand quelqu'un me dit que Jésus avait fait ça. J'ai dit, ouais, t'as une minute, j'ai commencé à lire moi aussi. Puis en lisant, je me suis aperçu que j'ai compris. C'est ça qui a permis que je puisse me donner au Seigneur. Parce que j'avais le livre dans les mains. On voit que le livre est encore bien important, même pour être sauvé. Il dit dans parole, Paul, il dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Mais on prêche quoi? On prêche ce qui est écrit dans la Bible. On prêche l'évangile éternel. On prêche l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Mais dans Romains 1,16, ça nous dit, c'est Paul qui parle, il dit, j'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Hey, on a de quoi de puissant d'aimer. On a de quoi de puissant d'aimer. La Bible, là, ici en anglais, c'est écrit Holy Bible, la Bible sainte. La sainte Bible, c'est la sainte parole de Dieu. Premier, ceux qui ne savent pas, Bible veut dire livre, tout simplement. Le saint livre. Pourquoi qu'il est saint, ce livre-là? Parce que les paroles dedans du Dieu saint. Il y a le témoignage du Dieu saint, il y a son alliance, il y a ses promesses, il y a toutes ses conditions pour entrer au ciel. C'est écrit dans le livre saint, c'est un livre-là, Dieu n'a pas permis qu'il soit détruit, il a permis qu'à la fin des temps que nous sommes rendus présentement, qu'on l'ait encore dans les mains. C'est extraordinaire. C'est pas du n'importe quoi. Ce livre-là, là, il est éternel. Tout ce qui est écrit là, on va le revoir encore rendu l'autre bord. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur. Puis c'est le seul livre sur la planète dont l'auteur est encore vivant. Ben, pas le seul livre, il y en a encore des livres aujourd'hui, mais c'est le plus vieux livre qui est sur la planète que l'auteur est encore vivant. L'auteur, c'est Dieu lui-même. Puis j'espère qu'on n'est pas tanné de ce livre-là, qu'on n'est pas las des paroles qui sont écrites là-dedans. Ça nous permet que quiconque croit puisse être pardonné, être sauvé, avoir la vie éternelle, c'est quelque chose. Un autre point que Dieu nous parle par sa parole, on voit encore là-dedans l'importance de sa parole, c'est que la parole de Dieu nous permet de survivre spirituellement puis de grandir dans la foi. Sur quoi qu'on se base pour dire que la parole de Dieu me permet de survivre spirituellement? Ça veut dire que quelqu'un qui a été sauvé puis qui est en vie, parce qu'il a été né de nouveau, peut mourir spirituellement dans sa vie si... On va voir quoi? Jésus le dit, il a commencé à en parler dans Matthieu 4:4. Jésus a répondu, il est écrit, il parle au diable, là. L'homme vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est en train de nous dire qu'un humain qui est debout, deux pieds debout, là, tu sais, il peut pas vivre juste de pain. Tu vas vivre en te nourrissant de la parole de Dieu. On le sait que ça n'a pas de rapport si je lis que mon corps va être vivant. Non, bon, ça change rien. Mon corps, ça change de quoi? Mon état spirituel. La Bible, la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Tu peux pas dire que tu es chrétien et t'arrêtes de manger, spirituellement parlant. T'arrêtes de te nourrir de la parole, c'est pas long que tu vas tout oublier ce qui est écrit. Puis tu vas marcher dans quoi? Tu vas marcher dans le champ. Tu vas t'égarer, tu sors du sentier resserré quand tu marches plus selon la parole. On va le voir. Puis, il n'y a pas juste l'aspect de commencer à marcher tout croche. On va voir que la parole de Dieu, c'est une puissance qui nourrit notre foi. Notre foi, c'est spirituel, là, c'est pas physique. Je peux pas toucher à ma foi. Je peux toucher à mon corps, je peux toucher à la table, au livre, mais ma foi, c'est spirituel. Ma foi, dans, parce que tu peux mettre ta confiance dans plein d'affaires dans ce monde, mais la foi en Dieu, ça peut grossir, ça peut grandir, ça peut se développer, ça peut se renforcer dans la foi. On peut se renforcer dans la foi, mais pour cela, faut se nourrir de nourriture spirituelle, d'aliments spirituels qui nourrissent notre foi spirituelle. Puis ça, ça vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu vas te nourrir de la parole de Dieu, plus tu vas grandir dans la foi. Si tu l'écoutes avec des yeux de foi, bien entendu, si tu es rempli de doutes puis tu charges de l'aller juste pour trouver des erreurs, ça n'aura aucun effet dans toi. Elle a de l'effet que dans ceux qui y croient. Mais tout ce qui est là est vrai et éternel, puis tout va s'accomplir, mais Dieu a mis comme critère qu'il fallait avoir la foi pour que ça soit activé comme livre. C'est la foi qui active ce qui est écrit. Les promesses, c'est par la foi que tu vas les saisir. Pourtant, il était là, oui, il était là, mais toi, tu dois avoir la foi pour saisir le cadeau qui est en Jésus, puis pour saisir aussi toutes tes guérisons, tes délivrances, puis de marcher jusqu'à la fin avec la force que tu auras besoin. C'est tout par la foi que tu vas chercher dans la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Oui. Pierre nous dit aussi, dans ses épîtres, dans 1 Pierre 2:2, il nous dit à nous, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ça, là, ça dit quelque chose de gros, là. On voit que même si tu as accepté Jésus, là, 20 ans, t'es rendu où aujourd'hui dans ta vie chrétienne? Faut que tu désires encore le lait spirituel et pur afin que tu croisses pour le salut. Ouais, mais le salut, je l'ai eu en Jésus. Ça, c'est le commencement. T'es rendu où 20 ans plus tard? T'es-tu encore dans ta communion, nourri dans ta foi, encore en faim et en soif de Jésus dans ta vie? Faim et soif de la parole de Dieu, ou si t'es rendu tiède et peut-être même froid? On l'a vu dans une autre étude, les tièdes vont être vomis. C'est pas des farces. On a resté bouillant pour le Seigneur. Il n'y a rien qui compte d'autre que de s'accrocher à Jésus. Il faut le faire passer en premier dans notre vie. Puis essayer de garder le contact coûte que coûte. C'est ça qu'on a vu aussi la semaine passée. Peu importe ce que ça coûte, il faut rester attaché à Jésus parce que c'est Jésus qui nous donne tout. L'accès dans la vie éternelle, là, c'est dans notre communion en Jésus. Si on néglige ça, comment on va, il y a un verset qui dit, si on néglige un si grand salut, j'ai oublié le verset, mais il me reviendra plus tard. Mais le point que la Pierre nous parle, là, désirer comme des enfants nouveau-nés. Un enfant nouveau-né, là, quand il est sorti du ventre de sa mère, c'est pas long qu'il désire du lait. Hein? Puis il manifeste son désir, il crie. Ouah, 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 c'est correct, pogne la bouteille, okay? Là, tu y en donnes, puis là, il est calmé. Mais il dit qu'on devrait désirer la parole de Dieu comme cela. On pleure-tu pour se nourrir de la Bible? Puis que Dieu nous nourrisse par ce lait spirituel-là qui va te permettre de grandir pour le salut. Parce qu'on a besoin de devenir des hommes et des femmes de Dieu. On ne doit pas rester à la stature d'un enfant. On doit devenir des hommes et des femmes à l'image de Jésus. Jésus, là, ce que tu vois dans les passages, il parle de la parole de Dieu. parla des promesses, il expliquait les choses qui concernent le royaume, des paraboles, puis il expliquait les affaires, c'était ça sa vie, c'était ça sa raison de vivre. Bon, si on veut devenir comme lui, on a besoin de mettre une grande place de la Bible dans notre vie. Amen. Un autre beau point que la parole de Dieu fait dans nous. La parole de Dieu nous guide dans notre marche. C'est un guide. Ça veut dire, si on est au courant de ce qui est écrit là, c'est comme si notre chemin il est tracé. Puis on a des limites chaque bord qui sont affichées, sont écrites. Faites pas ça, tu fais pas ça, puis là tu t'en lignes dans le centre. Pas sur le bord de la ligne, puis marcher sur la ligne, là. Tu sais, on a un pied dans le monde puis un pied dans le Seigneur. Non, si on marche dans le centre du chemin, on s'enligne à avancer vers le Seigneur. Dans Proverbes 6, 23, c'est sûr j'aurais pu prendre le passage, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Mais tout le monde la connaît, celle-là. Prenez le verset dans Proverbes 6, 23. Il dit, « Car le précepte est une lampe. » Et l'enseignement, une lumière. Et les avertissements et la correction sont le chemin de la vie. Voyez-vous, Dieu y avait prévu que notre chemin soit éclairé bien comme il faut. Dans cela, on retrouve toutes les préceptes, les enseignements, les avertissements, puis même les corrections. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est écrit. T'as pas besoin de plus que ça. Juste avec ça, on a assez pour marcher. Mais c'est sûr, ça prend aussi que le Saint-Esprit nous les éclaire, là, qu'il nous fasse comprendre. Mais si t'as l'Esprit Saint et tu veux être guidé par la Bible, t'es sûr de rentrer. Parce que là-dedans, t'as tout ce qu'il y en est de ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas. Du chemin qu'il nous a demandé de suivre. Jésus a tout expliqué à ses disciples, les apôtres avec. On fait partie de la nouvelle alliance, puis on connaît même les promesses qu'on va avoir à cause de la nouvelle alliance, puis on connaît le chemin, Jésus le dit, les apôtres avec. C'est le chemin de la vie. Si tu marches dans ce chemin-là, tu es sûr de te rendre. Ce chemin-là s'appelle Jésus. Suivre son chemin, c'est suivre sa parole. Jésus l'a dit, il n'y a pas besoin de personne qui dise Seigneur, Seigneur, c'est pas ça, c'est pas assez. Il dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Puis ça, c'est important de la connaître, puis de marcher, même 2000 ans plus tard, est encore faire sa volonté, c'est encore ce qui est écrit là. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Des choses qu'il nous demande, puis des choses qu'il nous dit de pas faire. C'est très clair, puis le chemin, il est bien borné. Marchons ensemble, puis on marche dans le chemin de la vie. C'est le chemin de Jésus. Jésus l'a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est Jésus la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il dit, il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouve. Faut que tu trouves la porte, puis faut que tu trouves le chemin. C'est écrit « les trouve ». Puis ça, là, la porte, c'est Jésus, puis le chemin, c'est la parole de Jésus. C'est sa parole. Puis il dit, là-dedans, tu trouves ses préceptes, ses enseignements, ses avertissements, sa correction, sont le chemin de l'arbre de la vie, le chemin de vie. Oui. Paul, il reprend cette idée-là. Paul, il reprend cette idée-là en disant que la parole de Dieu sert comme guide moral pour éclairer notre chemin. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, il nous dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. » Es-tu en cours d'actualité 2000 ans plus tard? Si je veux être instruit dans la justice, où vais-je puiser? C'est dans la parole de Dieu. On peut pas dire que c'est démodé, puis c'est fini, puis ça compte plus. Si tu veux devenir comme Jésus, faut que tu connaisses ce que Jésus a dit. Puis on faut s'en nier là-dedans. Paul il a aussi dit à Timothée, Timothée, c'était pas juste un jeune. Timothée, là, c'est un évangéliste, puis c'est un pasteur. Il est envoyé par Paul, des fois, pour aller établir des anciens dans des villes, pour aller porter des messages que Paul lui disait. Paul, il disait des affaires, puis là, il partait, puis il savait qu'il était jeune, mais il avait l'autorité du Seigneur. Il avait reçu des dons par imposition des mains, puis c'est un gars qui était établi pour être un compagnon de voyage avec Paul, puis il avait une autorité. Puis c'est un gars qui, dans son autorité, à un moment donné, il s'est découragé. Parce qu'il était jeune, puis il y a des églises qui le méprisaient. Parce qu'il y a des églises qui, même un bout, l'église de Corinthe, comme par exemple, elle voulait même plus que Paul y aille. Ben, il était renflé d'orgueil, puis il y avait du monde qui menait dans l'église, c'était pas des hommes de Dieu. Il dit ça, c'est des ouvriers trompeurs, des apôtres déguisés en ministres de Christ, puis ils vont recevoir selon leurs œuvres. Mais l'idée, c'est que Timothée était influencé parce qu'il était jeune, puis Paul l'a encouragé à se fortifier, à ranimer ses dons, puis à se raffermer dans le Seigneur. Puis regardez bien ce que Paul lui dit pour qu'il puisse se fortifier dans le Seigneur. Dans 1 Timothée 4, le verset 13 à 16. Paul lui dit à Timothée, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » La lecture de quoi? La lecture des écrits de la parole. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Là, il dit, concentre-toi, mets du temps là-dedans. Tu veux grandir, là, je sais que tu as des combats, mais applique-toi à cela. Néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Regardez bien le verset, là. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi-en, là, la lecture, l'exhortation, l'enseignement. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Parce que quand tu t'appliques à lire la Bible, à l'étudier, à la méditer, puis à en parler, tu grandis dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu manges la nourriture spirituelle. Tu vas te développer spirituellement. Tu vas être capable d'ouvrir la bouche, puis tout le monde va dire, tes progrès sont évidents pour tous. Tout le monde va dire, wow, il a grandi, ce frère-là. Il dit, tiens, amen à cela. Puis il continue au verset 16. Veille sur toi-même. Paul dit ça à Timothée, qui est un homme de Dieu, là, même s'il était jeune. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Lâche pas d'étudier, de méditer puis de prêcher. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. Comment se fait si le salut se paie pas? Pourquoi que Paul dira ça? On voit bien qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Timothée était tellement découragé qu'il avait faibli dans la foi. Il a besoin de te remonter. Comment est-ce que Dieu a encouragé Timothée pour qu'il puisse être remonté? Il a-tu dit, je vais juste faire une prière pour toi? Non. Il a dit, lis la Bible, étudie-la, médite-la, parle, explique-la la Bible, parle de la Bible. Autrement dit, applique-toi à ces choses, donne-toi tout entier, tes progrès vont être évidents, puis c'est de même que tu vas te sauver, puis tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Voyez-vous, il y a quatre choses là. Est-ce importante la Bible aujourd'hui, 2000 ans plus tard? Elle est très importante. Tu peux pas penser que tu vas te sauver si tu négliges la Bible. J'ai dit au début qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui pensent qu'elle est démodée, sans importance, puis ils la lisent pas. Mais ils passent à côté de la nourriture spirituelle que Dieu a préparée pour ta croissance spirituelle, pour que tu grandisses dans le Seigneur, puis pour que tu deviennes un homme et une femme de Dieu à l'image de Jésus. pour ça que les enseignements sont là aussi dans l'Église. On est en train de faire ce que Jésus avait préparé, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Les prescriptions, c'est les guides qui font partie, attention, dans les enseignements, allez pas par là, faites pas ça, touchez pas ça. Tout ce qu'on apprend dans les prescriptions, puis on apprend aux gens à on les sait, puis qu'on se les fait rappeler. Paul, il explique ça à Timothée, mais je suis sûr que Timothée l'avait déjà entendu, mais il a besoin de se le refaire dire que faut que tu te nourris spirituellement, tu vas t'affermer, tu vas grandir, puis tu vas te sauver toi-même, tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Parce que si tu négliges, tu vas devenir à la dérive spirituellement parlant. Tu n'auras plus la force spirituelle que tu as besoin pour marcher. Oui, là, en prière, on va chercher de la force, mais aussi dans la parole de Dieu. C'est pas un contre l'autre, c'est les deux ensemble qu'on a besoin. Du contact, de la communion, mais aussi de se nourrir spirituellement. L'homme vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça te maintient en vie spirituellement, puis quand tu manges ton corps, de la bonne nourriture, physiquement parlant, t'es capable de faire tes journées d'ouvrage, puis t'es allé le pelleter le 20 tonnes de garnottes. Mais c'est le même dans la vie. Si t'es capable de réaliser cela, mais spirituellement, si tu veux être capable d'ouvrir la bouche, puis de parler de Jésus quand c'est le temps, puis de prier quand c'est le temps, puis de faire les choses spirituelles, il faut que tu sois en forme spirituellement. Puis pour l'être, il faut que tu aies une nourriture équilibrée. Puis ça, c'est la parole de Dieu. On a un combat à faire. Jésus n'a-t-il pas dit que si on l'aime, qu'on aime Jésus, nous devons aussi garder sa parole? C'est écrit dans Jean 14, 23 et 24. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Mais celui qui m'aime pas, ne garde point ma parole. Et la parole que vous entendue n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voyez-vous, tu peux pas dire que t'aimes Jésus si t'aimes pas la Bible. Si t'aimes pas ce que Jésus a dit, là, mais va pas dire que t'aimes Jésus. Mais si t'aimes Jésus, aime la parole qui sort de la bouche de Jésus. C'est la parole, c'est Jésus. Jésus n'a-t-il pas aussi dit que seuls ceux qui gardent et pratiquent sa parole qui sont vraiment ses disciples? Oui, il a dit ça aussi. On voit ça dans Jean 8, 31 et 32. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru, il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Il a dit ça à du monde qui croyait. Mais pour être vraiment son disciple, faut que tu demeures dans la parole. Faut que tu croies en Jésus, mais faut aussi que tu vives la parole de Dieu. Ça soit ta vie, t'es enraciné. Si tu la vis pas, t'es pas un vrai disciple, même si tu y crois en Jésus. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. C'est dans la présence du Seigneur et de vouloir rester dans sa parole que la puissance de Dieu va être pleinement active pour te délivrer. Jésus n'a-t-il pas dit aussi que celui qui garde sa parole ne verra jamais la mort? Oui. Dans Jean 8, 51, Jésus a dit, « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Il n'a pas dit, si quelqu'un croit en moi, ne verra jamais la mort. Voyez-vous, il y a une différence ici. On met beaucoup l'accent dans les prédications de croire en Jésus. C'est pas assez juste croire en Jésus. Faut que tu crois en sa parole et que tu la gardes. Si la Bible elle compte pas, oh je veux être sauvé, je veux avoir la vie éternelle, puis là on jette la parole, puis on pense qu'on est dans le bon chemin. Tu peux pas faire ça. Si tu aimes Jésus, tu vas aimer ce qui est écrit là, puis tu vas avoir un intérêt à vouloir savoir ce que Jésus dit, puis de vouloir le mettre en pratique. Puis si tu pèches, tu demandes pardon, puis tu te combats pour t'en sortir. Tu restes pas dans ces situations-là. C'est ça qui fait que, parce que tu décides vraiment de démontrer que tu t'aimes Jésus en gardant sa parole, et ceux qui gardent sa parole ne verront jamais la mort.
Amen.
Ça sous-entend que ceux qui la négligent, ils rentreront peut-être même pas. On est mieux de pas rester sur la ligne du oui, non, oui, non. Non, on tient pas sa ligne. C'est oui, Jésus, sa parole, puis je veux marcher de l'être. C'est ça de même qu'il faut être en bouillant. Un dernier verset. Jésus a promis d'ouvrir les portes dans la vie à ceux qui gardent Jésus et sa parole. En gardant les deux. Dans Apocalypse 3:8. Jésus dit, « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Puis tu n'as pas renié mon nom. » Il y a des conditions, là. « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Croire en son nom, on ne l'a pas renié, c'est déjà un bon point, mais c'est pas assez. Oui, on croit, mais on garde sa parole. À ceux qui gardent sa parole, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, puis personne ne peut la fermer. Ça veut dire que Dieu est avec toi, puis Dieu va te faire réussir dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que tout le monde qui réussit présentement dans leur vie, ça veut dire que Jésus est avec eux? Non. Parce qu'il y en a qui réussissent, même les méchants, ils réussissent. Les méchants réussissent, c'est pas le critère de dire parce que tu réussis dans ta vie financièrement, ça veut dire que tu as une réussite au niveau spirituel. Ça n'a pas rapport. Mais Jésus dit à toi, parce que tu gardes la foi en son nom, puis parce que tu gardes sa parole, bien, il va être avec toi, puis il va t'aider dans ta marche à toi pour que tu réussisses. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir riche, mais ça ne veut pas dire que tu ne deviendras pas non plus. Dieu a rien contre ça, c'est pas ça le but, c'est garde sa parole, marche avec le Seigneur, aime-le, il va te faire passer à travers tes épreuves, puis tes combats, puis tes luttes, puis tes efforts, puis il va te bénir, puis il va t'ouvrir des portes, puis la bénédiction est avec toi. Amen.
Amen.
On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Parce que là-dedans, on retrouve tout ce qu'on a besoin de savoir pour être sûr, pour nous affirmer, pour nous faire qu'on ait une confiance en nous. Ça nous fait grandir quand on apprend les choses puis qu'on s'en nourrit. Seigneur, merci de nous avoir permis qu'on ait cette parole aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Je te demande de nous garder bouillants, qu'on ait toujours à cœur de mettre en pratique ce qui est écrit là, qu'on s'endurcisse pas, puis qu'on n'arrache pas de page de la Bible. Comme tu nous as dit aussi dans la parole, si on retranche quelque chose ou si on en rajoute, mais on veut rester tel que c'est écrit. Puis je te remercie de ce que tu vas faire. Ça sera la plus belle réussite pour nos vies, que tu nous gardes dans ce chemin-là. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, puis je te demande de nous aider dans notre marche. Puis merci de ce que tu vas faire dans la suite. On met notre vie entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus.